Ce jour-là, j'ai eu un immense choc, en fait. J'en ai eu un si grand que je n'en ai jamais parlé.
En fait, adolescente, je me sentais déplacée, comme un geste ou comme une parole peuvent être déplacées.
En famille, en amour, au travail, en société, trouve-t-on jamais tout à fait sa place ? Ce sentiment d'être en adéquation avec soi-même, de se rapprocher de la personne que l'on a l'ambition d'être. Une carrière pertinente qui nous rend heureux, un entourage qui nous aime pour ce que nous sommes, une vie qui nous ressemble ou tout du moins nous trahisse le moins possible. Parfois, ce sentiment de cohérence arrive vite, parfois plus tard, quelquefois jamais. Le plus souvent, il se déplace par vagues. Je suis Marion Ruggieri et dans le podcast Les Vagues, un tout nouveau podcast de Elle, j'interrogerai des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois, mais aussi le moment où elles se sont senties déplacées. Je me rendrai chez elles ou dans un lieu cher à leurs yeux pour qu'elles me racontent ce jour fondateur où elles se sont dit « Là, je suis bien, je suis là où j'ai toujours voulu être et c'est moi ». Découvrez et écoutez Les Vagues à partir du 24 octobre sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Elle s'attable. Le podcast des femmes qui changent le monde. Via nos assiettes.
Depuis l'aube de l'humanité, les femmes nous nourrissent. Aujourd'hui encore, elles produisent plus de 70% de la nourriture consommée dans le monde et cuisinent la quasi-totalité des repas. Elles sont aussi nombreuses à s'investir pour une alimentation de meilleure qualité. Chefs réputées ou talentueuses méconnues, elles sont les invitées de notre podcast « Elles s'attablent ».
Elles s'attablent.
Au fil des mots et des rires, elles nous expliquent comment, en traçant leur route, elles inventent les chemins gourmands de demain.
Elle s'attable, une émission présentée par Danielle Jerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à table.
Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de Elle s'attable, le podcast du magazine Elle à table. Pour ce premier épisode de la saison 3, et oui, déjà la saison 3, nous sommes dans le 13e arrondissement. Alors, un quartier tout moderne. Devant moi, il y a une grande baie vitrée qui s'ouvre sur un ciel un petit peu chargé, on est en janvier. Des grands immeubles modernes et dans cette atmosphère un peu à la New York, nous sommes dans un restaurant qui a ouvert l'année dernière, en 2021, qui est complètement ouvert sur l'extérieur, baigné de lumière et qui est un programme à lui tout seul. Son nom, Nosso, ou si j'ai bien compris, nous ou le nôtre en brésilien, c'est le restaurant ouvert par Alessandra Montagne. Bonjour Alessandra.
Bonjour.
Elle s'attable.
Vous êtes chef.
Oui.
Vous êtes brésilienne.
Oui.
Vous avez ouvert Nosso.
Oui.
Et vous écrivez une page absolument magnifique d'une peut-être nouvelle manière d'envisager la cuisine, celle d'une humaniste.
Oui.
Alors, racontez-nous d'abord, comment êtes-vous tombée dans la cuisine ? Parce que finalement, si j'ai bien compris, rien ne vous destinait, Alessandra Montagne, à être chef au départ.
Eh bien non, ni à être en France, ni de vivre ce rêve absolument incroyable que je vis aujourd'hui. Je suis née au Brésil, je suis venue en France simplement pour apprendre à parler français. Je n'avais pas du tout prévu de cuisiner, de faire de la cuisine de façon professionnelle. Et au final, en arrivant en France, j'étais absolument passionnée par le terroir et par la culture gastronomique. En fait, vous avez une façon de manger qui est complètement incroyable, différente des autres, enfin, du Brésil en tout cas. C'est cet amour de passer à table, le produit, le terroir, pour un étranger, mais c'est dingue, quoi. Donc, quand je suis arrivée ici, que j'ai vu ça, je voulais prendre part à ça, moi aussi. Et comme je cuisinais déjà beaucoup, parce que j'ai appris à cuisiner, j'ai grandi avec mes grands-parents dans un petit village brésilien à Minas Gerais, dans la partie la plus pauvre de Minas Gerais, vraiment.
Qui est une région relativement pauvre.
Et donc dans un petit village à l'époque, voilà, quand je suis arrivée là-bas en 1977, on n'avait pas le courant encore. Donc il faut situer les choses. On cuisinait dans un foyer en bois. C'est une vie complètement différente de ce qu'on
peut
imaginer.
Peut-être proche de ce qu'on pouvait vivre en France dans les années 20 à la campagne.
Exactement.
En fait, comme vous le dites, Alessandra Montagne, quand vous racontez votre enfance, ce que j'ai pu lire ou entendre, c'est « nous ne manquions de rien, mais nous n'avions aucun superflu ».
En fait, ce qu'on n'a pas ne nous manque pas, d'accord ? Donc, on avait à manger. Je me rappelle encore quand j'ai eu ma première chaussure. C'est un truc complètement dingue. Quand je vois aujourd'hui ma fille de 16 ans, qui a plusieurs paires de chaussures.
Et qui n'en a jamais assez.
Moi, je me rappelle le jour où j'ai eu ma première chaussure, le bonheur. J'avais peur de les mettre, de les abîmer. Et encore aujourd'hui, quand je m'achète un nouveau truc, j'ai là, est-ce que je vais le porter parce que ça va abîmer? J'ai gardé encore des réflexes d'avant. Donc, rien ne me prédestinait à être là aujourd'hui. Et l'acheminement jusqu'à être ici aujourd'hui devant vous, je me rends de plus en plus compte à quel point... Enfin, je remercie les dieux de m'avoir donné cette chance. J'ai tellement reconnaissante. C'est un véritable miracle.
Et vous êtes jeune, donc c'est très loin d'être fini. Alessandra Montagne, vous parlez beaucoup de ce terroir français très si particulier. Est-ce que aujourd'hui, vous qui êtes d'origine étrangère et pleinement française de culture et de nationalité aujourd'hui, est-ce que vous diriez que la France est effectivement un pays très original et très particulier pour ce qui est de la table?
Pour moi, enfin, la culture gastronomique française, elle est unique, le patrimoine est unique. Imaginez tous les fromages, la diversité des fromages, la truffe, enfin, toutes les choses, mais c'est dingue, quoi. Moi, quand je suis arrivée ici, le pain, mais rien que ça. Où est-ce qu'on mange un croissant aussi bon qu'en France? Ça n'existe pas, quoi. Et en arrivant ici, ça, c'était pour moi une révélation. Je ne savais pas encore que j'allais devenir cuisinière un jour, mais j'ai commencé à acheter des livres de cuisine, à regarder des recettes en YouTube, comme on faisait ici, puis de regarder encore, et puis d'acheter encore des livres et des livres. À un moment donné, je me suis dit que j'avais que ça. Je lisais que des livres de cuisine, quasiment. Donc, puis tous mes amis qui me disaient, dis donc, tu cuisines vachement bien, pourquoi tu ne deviens pas cuisinière? Enfin, au bout des années, hein, ça a pris 6, 7, 8 ans avant que j'ai le déclic. Et là, j'ai dit, ok, d'accord.
Vous faites un CAP de cuisine,
oui.
Un CAP de pâtisserie.
Oui.
Vous avez la chance d'être formé par quelques grands noms.
Oui.
Alors, on parle de Yannick Aleno.
On parle de... William Ledeuil,
Adeline Grattard, qui est une très grande dame également.
C'est ça, incroyable.
Benoît Castel.
Bien sûr, Benoît Castel, il est incroyable. Cet homme, il est tellement généreux, tellement gentil. J'ai passé un an avec lui dans sa pâtisserie. Je me rappelle encore sa bienveillance qui était très marquée envers ses salariés. Enfin, c'était vraiment une très belle expérience. Et en plus, la pâtisserie, c'est vraiment... je ne m'y attendais pas à faire un CAP pâtisserie. J'ai appelé comme ça pour savoir, parce que mon compagnon à l'époque voulait faire un CAP pâtisserie pour qu'on soit complémentaires. J'ai appelé au mois de septembre pour savoir s'il y avait de la place pour l'année suivante. Ils m'ont dit non, là, Alessandra, il y a une place qui est libre là maintenant. Quelqu'un a désisté d'un cours. Ce cours a été déjà pris en charge. Il est payé. On ne peut pas rembourser. Est-ce que tu ne veux pas le faire? Tu es sortie majeure de la promo. Ça commence la semaine prochaine. J'ai dit quoi, semaine prochaine? J'étais chez Adeline Grattin en poste. Et j'ai dit, j'ai combien de temps pour donner une réponse? Ah, bah, tu as 2 heures pour nous dire si oui ou non. Adeline, en fait, il se passe
j'ai
ça.
Un petit souci.
Elle m'a dit, vas-y, fonce, mais t'es folle, tu dis pas non à ça, quoi. J'ai appelé, j'ai dit, ok. Donc, c'est ça, enchaîné comme ça, mais c'était dingue, en fait. Dingue.
Diriez-vous que votre vie est une suite de hasards heureux, au moins depuis que vous êtes en France?
Depuis que je suis en France, ma vie est un conte de fées.
À ce point-là?
Mais c'est un truc de dingue, ce pays, en fait, m'a ouvert toutes les portes possibles, imaginables. Tout le bonheur qui peut paraître normal pour vous, mais ça ne l'était pas pour moi, en fait. Donc, j'ai eu ça en France.
En 2012, vous ouvrez Tempero, votre premier restaurant, qui était déjà dans le 13e arrondissement. Oui. Est-ce que le 13e arrondissement, c'est votre quartier de cœur à Paris ?
Oui, en fait, depuis que je vis en France, j'ai vécu dans le 13e. Donc, c'est mon quartier. Mes enfants sont allés à l'école ici. J'ai ouvert mon premier restaurant ici. Mon deuxième ici, ce quartier, c'est tout. Hein,
Alors, venons à ce projet, justement, ce nouveau restaurant, Nosso. Mmh. Alessandra Montagne, vous l'ouvrez en juin 2021, si ma mémoire est bonne.
Oui, mon Dieu.
Ouverture légèrement troublée par la crise sanitaire,
oh,
on va dire.
Vite fait, hein. Un an et demi, mais bon. Ouais, en fait, quand j'ai pu signer le bail pour Nosso, donc le 1er février 2020, j'avais mis Tempero en vente parce que je n'allais pas pouvoir financièrement garder les deux. Et Tempero, j'avais 8 ans d'ancienneté chez Tempero parce que je l'avais depuis janvier 2012. Donc voilà, 8 ans d'ancienneté. Donc je le vends. Ensuite, il y a la crise sanitaire. Je venais de signer le bail pour Nosso. Et Nosso, en fait, c'est une création.
Donc pas d'aide.
Zéro aide. Voilà, donc j'avais un
loyer.
Alors
qu'est-ce que vous avez fait ?
En fait, je me suis retrouvée, bon, à la vente, j'étais TNS, c'est ce qu'on appelle en France travailleur non salarié. D'accord ? Je ne cotise pas à la caisse de chômage. J'aurais aimé, mais c'est comme ça, c'est la loi. Quand on est TNS, Et donc, du coup, je vends Tempero. C'est un restaurant où j'ai gagné un petit salaire, qui n'était pas un petit salaire, hein, parce qu'en plus, avec la crise des gilets jaunes avant, c'était compliqué. J'ai dû quand même trouver un petit truc à côté pour compléter mes revenus. Et en fait, quand on vend une entreprise, l'argent reste dans un endroit qui s'appelle le séquestre. Ce séquestre, d'abord, il va voir partout s'il y a des dettes avant de verser l'argent à la personne qui a vendu. Moi, je savais que tout était en règle, les URSSAF, machins, j'avais tout payé.
Tout était propre.
Toute ma compta est toujours à jour. Moi, j'ai reçu une facture, je la paye. Comme ça, au moins, je n'ai pas de stress. Et le séquestre, il faut quand même qu'il regarde. Mais là, Covid, le pays s'arrête.
Le séquestre s'arrête.
Et moi, je n'ai pas de droit au chômage. Et je comptais sur cet argent pour vivre. Et j'avais une entreprise où il fallait, où tout était prévu à l'ouverture au mois de juin de
les
cette
travaux,
même année.
Les salaires.
Voilà. Donc, du coup, je me retrouve comme ça. Et puis, je me suis dit, il faut que je trouve un travail. Donc, heureusement, mon conjoint avait besoin de quelqu'un pour l'aider parce qu'il a une entreprise, du coup, dans la pharmacie qui fait des compléments alimentaires. Et du coup, j'ai fait ça à 100% parce que je n'avais pas le choix. Donc pour moi, bon, c'était difficile, mais voilà.
C'était
quoi.
Imprévu, mais comme on dit, avec les citrons de la vie, vous avez fait une limonade.
C'est ça, une très bonne limonade. J'ai ajouté de la verveine dedans, c'est trop bon.
Alors, Alessandra Montagne, Nosso, est-ce qu'on peut dire que d'une certaine façon, c'est un peu comme Tempero, mais encore plus abouti ?
C'est ça. Alors,
Décrire ce restaurant, ce projet ?
Alors, Tempero, je l'ai ouvert avec le papa de ma fille, qui est mon ancien conjoint. Donc, c'était une histoire de couple, un petit restaurant familial, tout petit. Je n'avais pas d'expérience quand j'ai ouvert Tempero. J'ai fait ça rapidement après ma formation parce que je me suis dit, j'ai un petit peu d'argent, l'argent est fait pour payer des rêves, je vais le faire maintenant parce que voilà, j'ai 30 ans. Et puis, à l'époque, il faut se remplacer dans le contexte, il y a 10 ans, les femmes en cuisine... Il n'y avait pas toutes les dénonciations qu'il y a aujourd'hui, donc c'était très, 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 très dur.
Vous n'aviez pas forcément envie?
Non, je n'avais pas envie d'intégrer des brigades. Je me suis dit, je vais ouvrir mon petit truc et je vais apprendre. Si ça ne marche pas, ce n'est pas très grave. Un petit restaurant que le midi où je vais me faire la main, voilà. Où je vais faire
je
mes
Je ne prends pas beaucoup de risques, mais j'essaye quelque chose.
Voilà, j'essaye quelque chose. Je vais comme ça. On va faire une cuisine qu'on aime manger. Et bah, le premier jour, c'était complet. Le deuxième jour, c'était, on n'a même pas pris de serveur. On a dit, non, personne ne va venir. On fait la cuisine, on sert en même temps. Oh, c'était une catastrophe. Le premier service, le restaurant était plein. Il y avait 30 couverts avec des gens qui faisaient la queue dehors. Et en fait, ça n'a jamais désemplé. On a pris un retraité, copain du père de machin, qui est venu nous aider, qui était tout content, puisqu'il était à la retraite. Il mettait son costume pour venir tous les midis. C'était adorable, c'était génial. Et puis voilà, de petit à petit, on a ouvert le vendredi soir, un soir de plus. Après, on a trouvé une pétition devant notre porte en demandant d'ouvrir un soir de plus, les voisins. Donc hop, un jeudi soir, et on a resté comme ça. Et donc, comme on était un couple et qu'un couple en cuisine, voilà, forcément, c'est beaucoup de pression, c'est compliqué. Donc, voilà, c'était difficile. Et puis, beaucoup de visibilité et de lumière sur moi, ça a été compliqué aussi parce que, voilà, on s'y attendait pas. Et on ne peut pas savoir comment on va réagir face à ça vis-à-vis de l'autre. Bon, voilà, donc...
Donc aujourd'hui, vous êtes seule?
Aujourd'hui, je ne suis pas seule, en fait. Enfin, avant, on était deux, j'ai fini seule. Maintenant, je sais que je ne finirai pas seule.
Parce que ici, vous avez une équipe dont certains ne sont pas seulement des employés, mais sont des partenaires.
C'est ça. En chez Nosso. C'est ça. Ce qui s'est passé avec Nosso, c'est que du coup, chez Tempero, il y avait des gens qui ont été avec moi, qui m'ont suivi depuis longtemps, dont Juan, par exemple, qui était mon apprenti à la base. Et en ouvrant ici, la réformation de l'équipe, ceux qui ont voulu continuer le métier après le Covid, il y a beaucoup de gens qui ont voulu arrêter, mais ceux qui sont restés, je me suis dit, les postes clés ou les personnes clés qui sont là, qui vont rester. Aujourd'hui, construction du patrimoine en France, ça devient de plus en plus difficile. Vous avez vu les prix de l'immobilier. Comment un jeune sans héritage, qui n'a pas une grande famille, achète un appartement? C'est impossible. En fait, les écarts aujourd'hui vont être creusés encore plus. Ça va être encore plus compliqué. Alors, je me suis dit, j'ai une chance aujourd'hui d'avoir ce lieu. Je pense que cet endroit va marcher et qu'un jour, il va valoir un peu d'argent. Je commence de zéro. Le fonds de commerce n'existe pas. Donc, les personnes qui commencent là avec moi et qui sont psychologiquement prêtes à avoir une association, qui sont assez matures pour ça, je leur donne une chance de construire quelque chose. Parce que le jour où on vend ça, les gens qui ont construit, qui ont resté sont restés avec moi pendant 10 ans, je trouve que ce n'est pas juste qu'ils partent avec un solde de tout compte, parce qu'ils ont participé à cette croissance.
Mais est-ce que ça signifie que, dans votre point de vue, les gens avec lesquels on travaille, vraiment de manière proche, d'une certaine façon, c'est une forme de famille?
C'est une forme de famille, c'est une forme aussi, même au-delà de tout. Évidemment, que nous, on n'est pas un bon exemple ici parce qu'on est très proches. On se connaît très bien. Tout à l'heure, j'étais au téléphone avec un fournisseur. Je vois ma chef de partie qui arrive et qui me fait un bisou à l'épaule. C'est trop mignon, ça. Et ils sont tout le temps comme ça. Quand ils voient que je suis au chaud pendant longtemps et que je n'ai pas bu de l'eau, je vois un petit verre d'eau à côté de mon poste pour moi. Je n'ai rien demandé. Il y a une protection.
Vous n'imaginez pas le travail dans une ambiance tendue ou difficile?
J'ai du mal. Parce que, en fait, la restauration, par la pression qu'elle procure au moment du service.
Oui, le temps de préparation qui nécessite
un cuisinier pour devenir un bon. C'est un métier manuel. Donc, on est obligé de refaire les gestes. Et puis, encore une fois, on a besoin de refaire les choses des dizaines, parfois des centaines de fois pour le réussir. Et si on commence à ramener la restauration à 35, 40 heures, on n'aura plus jamais de vrai cuisinier.
Ce qui est la grande question qui se pose pour l'instant.
C'est une question qui est tout à fait légitime. Mais je tourne ça en rond dans ma tête. Mais je me dis, si on fait ça, il n'y aura que des trucs à importer, des médiocres.
Oui, ou des gastros hors de prix.
Hors de prix.
On risque de voir disparaître, la classe moyenne de la restauration.
C'est ça. C'est une question à se poser.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Le secteur de la restauration a été énormément touché par la crise sanitaire. Beaucoup de personnes se sont reconverties, notamment à cause des inconvénients du métier, horaires ou salaires.
On a eu 12 démissions depuis le retour, des pièces maîtresses, des gens qui étaient là depuis très longtemps, et toujours la même chose, ils ne veulent plus de cette vie-là.
Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de payer 30 ans de grand n'importe quoi dans notre métier, où les heures ont été abusées, où les salaires étaient très bas, les heures étaient très compliquées. C'est pour ça qu'on a perdu tant de monde, que les écoles hôtelières sont vides.
On veut mettre fin aux heures supplémentaires qui sont dérogatoires au Code du travail, puisque dans ce secteur, les heures supplémentaires sont payées que plus 10 et plus 20%, alors que dans le Code du travail, on est à plus 25 et plus 50.
Derrière quelqu'un qui amène une assiette, c'est des heures de travail, c'est des heures de préparation, c'est des heures de ménage, c'est des proches qu'on ne voit pas, c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices.
Elle s'attable.
Est-ce que vous diriez que ce respect de l'humain, pour vous, fait autant sens que le fameux respect de la planète dont on entend beaucoup parler ?
Ah ben, c'est tout, en fait, le respect de l'humain et de la planète. Mon Dieu, aujourd'hui, on est en train de détruire ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on va laisser pour nos enfants ? Si on respecte l'humain, on respecte la planète. En fait, c'est un projet global qu'il faudrait faire.
Chez Nosso, Alessandra Montagne, que faites-vous, justement, pour essayer d'être en accord avec vos principes, notamment pour ce qui est de la planète ?
Alors, chez Nosso, j'ai pris une décision qui a choqué un de mes chefs qui arrivait de Suède. Il était dans le groupe Franzen, donc 3 étoiles. Lui, il était head chef de un des restos du groupe. D'abord, il était chez Franzen pendant quelques années. Et ensuite, il est passé head chef dans un des restos du groupe qui s'appelle Bluebergs à Stockholm. Et il est génial, ça se passe super bien, c'est top, on adore. Mais il a été choqué en arrivant chez moi. Il a dit, mais où est la poubelle ? Je dis, mais quelle poubelle ? Mais ça ne va pas la tête. Pourquoi poubelle ? Je dis, mais où est-ce que je mets ? Je dis, ah, ça va dans le compost. Tu vois, le truc bleu, là, c'est le compost. OK, d'accord.
Ah, il n'y a pas de poubelle chez Nosso ?
Non. On a une petite poubelle à côté de la planche pour les os. On reçoit des trucs, un petit emballage qui n'est pas recyclable. Les très peu de restes dans les assiettes, parce qu'on calibre bien les assiettes pour ne pas avoir des restes. Tout est calibré. Mais il n'y a pas de reste chez Nosso. Il n'y a pas de poubelle. Et ça, en fait, c'est une décision qui était difficile à faire au départ. Parce qu'on s'est dit, ouais, quand même, comment on va faire ? Eh bien, comment on va faire, en fait ? Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de poubelle. Ça oblige non seulement à moi, mais tous les autres de la cuisine à réfléchir. Comment on fait ? Eh bien, là, il me reste...
Des arêtes de poisson, par exemple.
Des arêtes de poisson. Eh bien, on va faire en fumée. On va d'abord gratter les arêtes. On fait un petit tartare. Alors, soit on a assez pour mettre dans le menu midi. Et puis, on a passé, on fait un fumé. Et puis, voilà, de petite, ça oblige à réfléchir. Là, par exemple, l'autre jour, la coriandre qu'on a reçue, elle n'était pas très jolie, mais quand même, elle était moitié jolie. Qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on va pas mettre à la poubelle. Tu vois, le compost, il était plein, donc on va le mettre dans les tubes, on va les sécher. On a fait une poudre qui est délicieuse.
Et alors, question, Alessandra, d'où viennent les idées pour utiliser les restes ? Parce qu'on n'est pas dans une civilisation d'utiliser les restes ou de recycler. On est quand même, aujourd'hui, dans le monde occidental, on estime qu'il y a à peu près 30% de l'alimentation produite qui est mise à la poubelle.
16 milliards. 16 milliards.
Ah, d'euros, l'équivalent de 16 milliards d'euros ?
16 milliards d'euros par an en France. En France uniquement, on ne parle pas des autres, on va juste parler de nous. Un quart de ça, c'est la restauration.
Et il y a l'exemple du pain sec. J'aime beaucoup avec vous, j'ai découvert ça, donc j'ai décidé de faire la même chose. Racontez-nous, Alessandra.
Alors, le pain sec, il y a plusieurs utilisations possibles. On met dans des boulettes, on fait des puddings, on le ressèche bien, bien, et on fait de la farine pour refaire du pain, refaire de la focaccia. Là, on a une focaccia à la carotte qui est top. Et donc, une partie de la farine qui va être utilisée pour faire la focaccia, c'est en fait des petits morceaux de focaccia qui restent, qu'on sèche et qu'on refait de la farine et qu'on met dedans. Et puis, ça ne change rien au niveau de la recette. Voilà, vous mettez 20% au bout de l'année, c'est 20%. Là, on l'a compté combien de focaccia on fait par semaine, par mois, par an. On économise 80 kilos de farine.
Vous travaillez, alors les tout petits restes qui restent, les minuscules petits restes du compost, ils vont eux aussi, ils sont très loin d'aller dans la poubelle classique.
Alors Franck, notre jardinier de zone sensible, je travaille beaucoup avec la dernière ferme urbaine de Paris qui est à Saint-Denis. Et Franck, du coup, il transforme ça en compost et du coup, ça revient à la terre.
Chaque année, un tiers des aliments produits dans le monde ne sont finalement jamais consommés. En France, le gaspillage alimentaire représente 10 millions de tonnes par an, soit l'équivalent de 18 milliards de repas jetés à la poubelle.
On a tendance à penser que le gaspillage alimentaire, c'est juste chez soi, quand on ne finit pas son assiette, ou qu'on jette des aliments périmés. Mais non ! toutes les étapes de la chaîne alimentaire sont concernées.
Toute nourriture destinée à la consommation humaine et qui à un stade de la chaîne alimentaire est dégradée, perdue ou jetée constitue le gaspillage alimentaire.
Je veux dire, jeter ça, c'est vraiment scandaleux.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, 20% de la nourriture finit à la poubelle. Cela représente 150 kg par an et par personne gaspillés tout au long de la chaîne alimentaire, du producteur au consommateur.
Le but du jeu, c'est d'impulser une autre démarche économique, écologique, pour nous et puis la planète.
Elle s'attable.
Nos sauts, Alessandra Montagne, au-delà d'être presque une sorte de laboratoire du zéro déchet, vous avez aussi essayé de faire un restaurant dont l'immense majorité, quasiment l'intégralité des ingrédients, viennent de la proximité.
C'est ça. Alors, je dois faire peut-être à 90% de mes matières premières qui viennent de région parisienne. C'est déjà pas mal, 90%. Donc, je travaille avec une super entreprise qui s'appelle Biovor. Peut-être un peu moins pour moi, parce que du coup, la viande, c'est plutôt le perche, tu vois.
C'est
et le poisson, du coup, on n'a pas de poisson, on n'a pas de mer là. Donc voilà, on a un peu moins de 90, mais bon. Donc du coup, je travaille avec Biovor. Ils sont locaux et bio, donc ils font les fermes dans toute l'Île-de-France, qu'est du bio, et ensuite ils distribuent. Donc quasiment tout chez eux, quasiment... Tout non, parce qu'on a beaucoup chez Zone Sensible, beaucoup.
Zone Sensible, c'est les légumes.
Les légumes et Biovor aussi, c'est des légumes. Donc Biovor et Zone Sensible, les légumes.
Alors Zone Sensible, c'est à quelques kilomètres d'ici seulement, non?
Oui, c'est juste à côté, c'est à Saint-Denis.
Oui, donc c'est à moins de 10 kilomètres.
Le miel béton là, qu'on a mis dans le thé, c'est parisien, c'est le miel parisien. Et donc ça c'est génial. Enfin, après, moi, je préfère sincèrement acheter un local, proximité, participer à l'économie de mon pays, de ma région. Évidemment, ça ne m'empêche pas d'acheter du super fromage du Pays Basque, ça ne m'empêche pas d'acheter du comté du Jura, ça ne m'empêche pas, évidemment, hein, évidemment en France.
Mais le plus petit
le plus possible. Petit possible, comme le plastique. Moi, je n'arrive pas moi, à faire du zéro plastique, mais un jour, j'arriverai. Donc, on est en train de regarder comment on fait. On apprend tous les jours.
Est-ce qu'il y a également une attention chez Nosso à ce que le client paye le juste prix?
Ça, c'est très
important.
Et que ça
ne soit pas trop cher.
Ouais. C'est compliqué, le juste prix, parce qu'en France, pour payer le juste prix, il faudrait qu'il soit plus cher.
Notamment parce que la main-d'œuvre est très chère.
La main-d'œuvre est chère. Donc, le restaurant pas cher, il y a quelqu'un qui paye derrière. Et ce quelqu'un-là aujourd'hui, c'est le propriétaire du restaurant, c'est-à-dire moi, avec mes associés. On assume, pour l'instant, le midi, le menu n'est pas à la hauteur du prix de ce qu'il y a dans l'assiette. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Voilà. Et Yannick Aleno qui lance une tribune très intéressante en demandant aux gens, en demandant au gouvernement, voilà, les gens sont prêts à payer 30% de plus dans une plateforme de livraison. D'accord. Alors les gens, quand ils vont au restaurant, on a quelqu'un qui sert, qui fait le service. Alors, si 15% de cette addition sont versés entièrement aux salariés, tous salariés confondus, la même quantité pour chaque personne du staff. Ni l'État, ni l'entreprise prend là-dessus. Ces 15% restent que pour les salariés.
Ils ne sont pas chargés.
Ils ne sont pas chargés. On a fait le compte, que ce soit dans un petit restaurant comme Lyon, dans un grand comme le Pavillon Le Doyen, ça fait en moyenne 800 euros par salarié, net d'impôts, net, par mois.
C'est énorme.
Mais c'est énorme. C'est une façon de faire revenir les gens vers la restauration, de valoriser leur travail.
Vous parlez de dignité, Alessandra Nosso, vous parlez de dignité. Est-ce que c'est une notion qui, pour vous, est essentielle? Permettre à chacun d'avoir un rapport digne au monde à travers la nourriture?
Mais absolument, c'est notre droit premier, en fait. Manger, c'est la seule chose que tout le monde devait avoir tous les jours. C'est un bon repas devant soi. Je ne sais même pas comment c'est possible encore qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à ça dans le monde. Avec autant d'argent, autant de gens qui n'arrêtent pas de faire des milliards de fortunes et qui n'arrêtent pas
de
grandir.
Une telle production aussi.
Cette production qui augmente, c'est ce gaspillage. Je ne comprends même pas comment aujourd'hui c'est possible alors qu'on met tant de choses en œuvre pour le virus, pour... Voilà.
Est-ce que vous, cela contribue à nourrir ce que vous faites également, ce que vous investissez dans les associations? Parce que vous êtes une chef qui est très active.
Oui, mais pour moi, c'est de rendre un peu... ce que j'ai, la chance que j'ai eue d'être là, cette reconnaissance que j'ai tous les jours, j'ai dit merci quand j'arrive ici, j'ai dit mon Dieu, c'est incroyable en fait. Donc pour moi, c'est hyper important de m'investir. Quand il y a le réchaud qui m'appelle, j'y vais en courant. Quand il y a le Refugee Food Festival, les femmes afghanes, ça me touche personnellement. La souffrance des femmes et des enfants. Moi, j'étais mère à 17 ans au Brésil avec une histoire qui était pas évidente. Et aujourd'hui, quand on parle de femmes en difficulté avec des violences faites aux femmes, je sais ce que ça veut dire, d'accord ? Je l'ai vécu dans ma peau. Donc, quand il y a un événement pour les femmes afghanes, moi, je ne me pose pas la question. Évidemment, j'y vais, je ne veux pas savoir. C'est les femmes, c'est les enfants, c'est pour les aider, j'y vais, point barre. Et comme ça, pour toutes les autres associations, que ce soit zone sensible, ils ont un travail très intéressant avec les femmes de quartier, de la maison de quartier. Donc, de temps en temps, j'y vais, on fait la cuisine ensemble. On passe un bon moment, ça leur permet de voir autre chose. Femmes, hommes, peu importe, les gens en difficulté qui ont besoin de manger. Quand je vais à la Madeleine avec Maxime, faire à manger pour ces personnes, l'aide alimentaire aujourd'hui, le visage de l'aide alimentaire, des personnes ont changé. Aujourd'hui, quand vous allez à la Madeleine et que vous voyez des familles avec des enfants, quand on sort pour leur dire bonjour et qu'on voit une famille avec une petite gamine de 11 ans, vous vous rendez compte ? On est en France.
Quels sont vos projets à venir, Alessandra Montagne ?
Alors, j'ai plein. Alors, en 2022, j'aimerais ouvrir mon épicerie qui est juste à côté, là, dans un local qui est là depuis des années. Il ne se passe rien. Donc, la mairie du 13e me l'a accordé pour faire une épicerie parce qu'on est dans un quartier où il n'y a pas de marché.
Il y a peu de produits frais, à part un ou deux supermarchés, j'imagine.
Oui, des grandes chaînes. Donc, je me suis dit que mes producteurs qui ont tant souffert pendant la crise sanitaire, si on pouvait avoir un endroit pour servir des produits parisiens ou des régions parisiennes, ce serait trop cool, quoi. Pour les gens du quartier aussi. Juste en face, j'ai un super projet avec un groupe de coworking qui est génial, qui vont faire un restaurant pour la première fois dans leur espace, et c'est moi leur chef. Et je suis trop contente parce que j'adore les personnes qui ont monté ça. C'est des êtres humains incroyables. Et leur devise, qui est très belle, c'est donner quelque chose à quelqu'un, c'est aussi recevoir. Je trouve ça tellement beau. Et je dis, OK, d'accord, je veux travailler avec eux. Et mon grand projet de ma vie, mon bébé d'amour qui va arriver à la fin de cette année, début de l'autre, c'est mon premier livre. Voilà.
Mon premier qui livre. Va être un livre qui va faire voyager.
Je vais le coécrire avec Lorraine Petit et Maki Manoukian qui va faire les photos. Et on ira au Brésil en voilier. Retour aux sources, retour à ma terre, à la terre. Et c'est un livre portrait.
De livres, de recettes et d'histoires.
De vie, de recettes, comment je suis arrivée là. Et je vais illustrer ça avec des recettes. Je vais mettre mes recettes préférées, ma première recette de quand j'étais petite, jusqu'à nos sauts et jusqu'à l'avenir. Donc... ça, c'est le grand projet de ma vie.
Dernière question, Alessandra Nosso. Diriez-vous que votre moteur principal, c'est l'optimisme ou pas?
J'ai toujours eu envie de réussir. J'ai jamais eu peur de l'échec. Et cette envie, j'ai un instinct de survie qui est très fort. Je le sais parce que j'ai vécu des situations de crise par le passé. Et j'ai cette revanche, en fait. Tu vois, moi, je suis un enfant qui était abandonné, en fait. Et je suis intimement persuadée qu'il y a un enfant abandonné. Il a deux choix. Il choisit une voie à un moment ou un autre. Je vais les faire regretter. De quelle façon je vais faire des bêtises à l'infini ou je vais devenir quelqu'un de bien. Je vais réussir ma vie.
Vous avez faim.
Faim de vie, faim de savoir. Je suis mais boulimique de savoir. Je veux tout savoir, je veux tout comprendre. Je passe ma vie à lire, à regarder des trucs. Là, pour la naturopathie, j'ai découvert l'anatomie. Aujourd'hui, je disais, putain, j'ai envie de devenir médecin, quoi. Pour tout savoir comment ça se passe dans le corps humain, j'ai envie d'ouvrir un corps, de regarder là. Mais comment ce tuyau, cette veine, oh, le ligament, mon Dieu, les glandes. C'est horrible.
Non, c'est merveilleux.
Mais j'ai tellement envie, le temps passe, j'ai 44 ans, je ne pourrai jamais tout savoir. Évidemment, et en même temps, j'ai dit, mon Dieu, mais je suis tellement nulle, je ne sais rien, comment je vais faire? Il y a trop de choses.
Bon, écoutez, merci infiniment. Moi, je pense que vous allez faire encore énormément de choses, Alessandra. Énormément.
Merci,
merci de nous avoir accueillis, merci de nous avoir consacré ce moment chez Nosso. Je pense que nous allons avoir d'autres occasions de parler avec vous.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup Alessandra de nous avoir reçus chez Nosso pour ce premier épisode de la troisième saison de Elle sa table. N'hésitez pas évidemment à le commenter, à le liker ou à le recommander. Rendez-vous bientôt pour le deuxième épisode de cette troisième saison.
Elle sa table, le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes. Elle sa table en podcast sur toutes les plateformes de streaming.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.